Le massacre de Nancy est une ère vraiment funeste, dont l'on pourrait dater les premiers commencements des divisions sociales qui, plus tard, développées avec l'industrialisme, sont devenues de nos jours l'embarras réel de la France, le secret de sa faiblesse, l'espoir de ses ennemis. L'aristocratie européenne, son grand agent, l'Angleterre, doivent ici remercier leur bonne fortune. La Révolution aura comme un bras lié, un seul bras pour lutter contre elle. Ce petit combat de Nancy eut les effets d'une grande victoire morale. Il rendit suspectes d'aristocratie les deux forces que venait de créer la Révolution, ses propres municipalités révolutionnaires, sa garde nationale. On dit, on répéta, on crut, et plusieurs disent encore, que la garde nationale avait combattu pour Bouillé. Et cependant, on a vu qu'avec les lettres de Lafayette, avec tous les efforts de ses aides de camp envoyés exprès de Paris, Bouillé ne put ramasser, sur une route assez longue, que 700 gardes nationaux, des nobles très probablement, leurs fermiers et gardes-chasse, etc. Mais les vrais gardes nationaux, les paysans propriétaires de la banlieue de Nancy, fournissant à eux seuls 2000 hommes, prirent parti pour les soldats, et malgré l'abandon des deux régiments français, tirèrent sur Bouillé. Naguère, à la nouvelle que les Autrichiens avaient obtenu le passage, 30 000 gardes nationaux s'étaient mis en mouvement. Chose bizarre, ce furent surtout les amis de la Révolution qui accréditèrent ce bruit que la garde nationale avait pris parti pour Bouillé. Leur haine pour Lafayette, pour l'aristocratie bourgeoise qui tendait à se fortifier dans la garde nationale de Paris, leur fit écrire, imprimer, répandre ce que la contre-révolution voulait faire croire à l'Europe. La conclusion fut pour l'Europe qu'il fallait bien que cette révolution française fût vraiment une chose exécrable pour que les deux forces qu'elle avait créées, les municipalités, la garde nationale, se tournassent déjà contre elle. Lafayette armant Bouillé, l'autorité révolutionnaire ne pouvant rétablir l'ordre qu'avec l'épée de la contre-révolution. Quoi de plus propre à persuader que celle-ci avait la vraie force, qu'elle était le vrai parti social? Le roi, les prêtres, les nobles se confirment dans la conviction qu'ils ont de la légitimité de leur cause. Ils s'entendent et se rapprochent. Divisés et impuissants dans la période précédente, ils vont se ralliant dans celle-ci, se fortifiant les uns par les autres. Les compagnies qu'on croyait mortes relèvent bravement la tête. Le Parlement de Toulouse casse les procédures d'une municipalité contre ceux qui foulaient au pied la cocarde tricolore. La Cour des aides donne gain de cause à ceux qui refusaient les paiements en assignat. Les précepteurs n'en veulent point. Les fermiers généraux défendent à leurs gens de les recevoir. Repousser la monnaie de la Révolution, c'est un moyen très simple de la prendre par famine, de lui faire faire banqueroute, et la vaincre sans combat. Mais les fanatiques veulent le combat. Tout cela est trop lent pour eux. Ceux de Montauban poursuivent à coups de pierre les patrouilles d'un régiment patriote. Dans l'un des meilleurs départements, celui de l'Ardèche, les agents de l'émigration, des froments et des entraigues, organisent un vaste et audacieux complot pour employer les forces de la garde nationale contre elles-mêmes, pour tourner les fédérations à la ruine de l'esprit qui les dicta. On appelle à une fête fédérative près du château de Jalès, les gardes nationaux de l'Ardèche, de l'Hérault et de la Lozère, sous prétexte de renouveler le serment civique. Cela fait, la fête finie, le comité fédératif, les maires et les officiers de garde nationale, les députés de l'armée, montent au château de Jalès, et là, arrêtent que le comité sera permanent, qu'il restera constitué en un corps autorisé, salarié, qu'il sera le point central des gardes nationales, qu'il connaîtra des pétitions de l'armée, qu'il fera rendre les armes aux catholiques de Nîmes, etc. Et tout ceci n'était pas une petite conspiration occulte d'aristocratie. Il y avait une base de fanatisme populaire. Des gardes nationales avaient au chapeau la croix des confréries du Midi. Des bataillons entiers portaient la croix pour bannière. Un certain abbé Labastide, général de ses croisés, avait 5 gardes du corps pour aide de camp, caracolés sur un cheval blanc, appelant ses paysans à marcher sur Nîmes, à aller délivrer leurs frères captifs, martyrs pour la foi. L'Assemblée nationale, avertie et alarmée, lança un décret pour dissoudre cette assemblée de Jalès, décret si peu efficace qu'elle durait encore au printemps. L'idée qui se répandait s'affermissait dans les esprits qu'une grande partie de la garde nationale était favorable à la contre-révolution, dut contribuer plus qu'aucune autre chose à faire sortir le roi de ses irrésolutions et lui faire faire en octobre 2 démarches décisives. Il se trouvait à cette époque irrévocablement fixé sur la question religieuse, celle qui lui tenait le plus au cœur. En juillet, il avait consulté l'évêque de Clermont pour savoir s'il pouvait, sans mettre son âme en péril, sanctionner la constitution du clergé. À la fin d'août, il avait adressé la même question au pape. Quoique le pape n'ait fait aucune réponse ostensible, craignant d'irriter l'assemblée et de lui faire précipiter la réunion d'Avignon, on ne peut douter qu'il n'ait en septembre fait savoir au roi sa vive approbation des actes de l'assemblée. Le 6 octobre, Louis XVI envoya au roi d'Espagne, son parent, sa protestation contre tout ce qu'il pourrait être contraint de sanctionner. Il adopta dès lors l'idée de fuite, qu'il avait toujours repoussée, non pas d'une fuite pacifique à Rouen, qu'avait conseillé Mirabeau, mais d'une fuite belliqueuse dans l'Est, pour revenir à main armée. Ce projet, celui qu'avait toujours recommandé Breteuil, l'homme de l'Autriche, l'homme de Marie-Antoinette, fut reproduit en octobre par l'évêque de Pamiers, qui le fit agréé du roi, obtint plein pouvoir pour Breteuil de traiter avec les puissances étrangères, et fut renvoyé de Paris pour s'entendre avec Bouillé. Ces négociations commencées par l'évêque furent continuées par M. de Fersennes, un Suédois très personnellement, très tendrement attaché à la reine depuis longues années, qui revint exprès de Suède et lui fut très dévoué. L'Espagne, l'empereur, la Suisse répondirent favorablement, promirent des secours. L'Espagne et l'Angleterre, qui semblaient prêts de faire la guerre, traitèrent le 27 octobre. L'Autriche ne tarda pas à s'arranger avec les Turcs, la Russie avec la Suède. De sorte qu'en quelques mois, l'Europe se trouva réunie d'un côté et la révolution était toute seule de l'autre. Allons avec ordre et méthode. C'est assez de tuer une révolution par an. Celle de Brabant cette année, celle de France à l'année prochaine. Beau spectacle. L'Europe contre le Brabant, le monde uni marchant en guerre, la terre tremblant sous les armées. Et pour écraser une mouche. Et encore, avec toutes ses forces, les braves employaient de surcroît les armes de la perfidie. Les Autrichiens par la marque, amis et agents de la reine, avaient divisé les Belges, amusant leurs progressistes, leur donnant espoir de progrès, leur montrant un monde d'or dans le cœur du philanthrope et sensible Léopold. Le jour où Léopold fut sûr de l'Angleterre et de la Prusse, il se moqua d'eux. Voilà ce qui serait arrivé chez nous, au Mirabeau, au Lafayette, à ceux qui soutenaient le roi par intérêt ou par un dévouement de bon cœur et de pitié. Chose grave, et qui faisait le danger le plus profond peut-être de la situation, c'est que la royauté si cruellement oppressive en Europe, si brutalement tyrannique pour les faibles, naguère à Genève, en Hollande, maintenant à Bruxelles, à Liège, la royauté, dis-je, en même temps intéressée à Paris, elle tirait de Louis XVI et de sa famille une incalculable force de sympathie, de pitié. Ainsi, elle allait de l'épée et du poignard, et c'est sur elle qu'on pleurait. La captivité du roi, objet de tous les entretiens chez toutes les nations du monde, y faisait ce qu'il y a de plus rare dans nos temps modernes, de plus puissant, de plus terrible, une légende populaire. Une légende contre la France. Tout le monde parlait de Louis XVI, et personne ne parlait de la pauvre petite Liège, barbarement étouffée par le beau-frère de Louis XVI. Liège, notre avant-garde du Nord, qui jadis pour nous sauver a péri deux ou trois fois. Liège, notre Pologne de Meuse, daigneusement écrasée entre ces colosses de Nord sans que personne y regarde. Mais qu'est-ce donc que le cœur de l'homme s'il faut qu'il y ait des capricieux injustes dans sa pitié? De quelque côté que je regarde, je vois un immense, un redoutable filet tendu de partout, du dehors et du dedans. Si la révolution ne trouve une force énergiquement concentrée d'association, si elle ne se contracte pas dans un violent effort d'elle-même sur elle-même, je crois que nous périssons. Ce ne sont pas les innocentes fédérations qui minaient indistinctement les amis et les ennemis dans l'aveugle élan d'une sensibilité fraternelle. Ce ne sont pas elles, ne l'espérons pas, qui nous tireront d'ici. Il faut des associations tout autrement fortes, il y faut les Jacobins. Une organisation vaste et forte de surveillance inquiète sur l'autorité, sur ses agents, sur les prêtres et sur les nobles. Les Jacobins ne sont pas la révolution, mais l'œil de la révolution. L'œil pour surveiller, la voix pour accuser, le bras pour frapper. Association spontanée, naturelle, auquel on aurait tort de chercher une origine mystérieuse ou bien des dogmes cachés. Elles sortirent de la situation même, du besoin le plus impérieux, celui du salut. Elles furent une publique et patente conjuration contre la conspiration, en partie visible, en partie cachée, de l'aristocratie. Il serait fort injuste pour cette grande association d'en placer l'unique origine, d'en resserrer toute l'histoire dans la société de Paris. Celle-ci, mêlée plus qu'aucune autre d'éléments impurs, spécialement dans l'éanisme, plus audacieuse encore, peu scrupuleuse sur les choix des moyens, a souvent poussé ses sœurs, les sociétés de province qui la suivaient docilement dans des voies machiavéliques. Le nom de société mère, que l'on emploie trop souvent, ferait croire que toutes les autres furent les colonies envoyées de la rue Saint-Honoré. La société centrale fut mère de ses sœurs, mais ce fut par adoption. Celles-ci naissent d'elles-mêmes. Elles sont toutes ou presque toutes des clubs improvisés dans quelque danger public, quelque vive émotion. Des foules d'hommes alors se rassemblaient, Quelques-uns persistent et même, quand la crise est finie, continuent de se rassembler, de se communiquer leurs craintes, leurs défiances. Ils s'inquiètent, s'informent, écrivent aux villes voisines, à Paris. Ceux-ci, ce sont les Jacobins. La situation, néanmoins, n'est pas tout dans la formation de ces sociétés. Leur origine tient aussi à une spécialité de caractère. Le Jacobin est une espèce originale et particulière. Beaucoup d'hommes sont nés Jacobins. Dans l'entraînement général de la France, au moment de sympathie facile et crédule où le peuple sans défiance se jeta dans les bras de ses ennemis, cette classe d'hommes, plus clairvoyante ou moins sympathique, se tint ferme et défiante. On les voit dans les fédérations paraître au fait sans se mêler à la foule, formant plutôt un corps à part, un bataillon de surveillance qui, dans l'enthousiasme même, témoigne des périls de la situation. Quelques-uns firent leur fédération à part, entre eux, à huis clos. Citons un exemple. Je vois dans un acte inédit de Rouen que le 14 juin 1790, trois amis de la Constitution, c'est le nom que prenaient alors les Jacobins, se réunissent chez une dame veuve, personne riche et considérable de la ville. Ils prêtent dans ses mains le serment civique. On croit voir Caton et Marcy dans Lucain. Jungutur taciti contentique a auspice brutto. Ils envoient fièrement l'acte de leur fédération à l'Assemblée nationale, qui reçoit en même temps celui de la Grande Fédération de Rouen, où parurent les députés de 60 villes et d'un 500 000 d'hommes. Les trois Jacobins sont un prêtre, aumônier de la conciergerie, et deux chirurgiens. L'un d'eux a amené son frère, imprimeur du roi à Rouen. Ajoutez deux enfants, neveux et nièces de la dame, et deux femmes, peut-être de sa clientèle ou de sa maison. Tous les huit jurent dans les mains de cette Cornélie, qui seule ensuite fait serment. Petite société, mais complète, se semble. La dame, veuve d'un négociant ou armateur, représente des grandes fortunes commerciales. L'imprimeur, c'est l'industrie. Les chirurgiens, ce sont les capacités, les talents, l'expérience. Le prêtre, c'est la révolution même. Il ne sera pas longtemps prêtre. C'est lui qui écrit l'acte, le copie, le notifie à l'Assemblée nationale. Il est l'agent de l'affaire comme la dame en a le centre. Par lui, cette société est complète, quoiqu'on n'y voit pas le personnage qui est la cheville ouvrière de toute société semblable, l'avocat, le procureur. Prêtre du palais de justice, de la conciergerie, aumônier de prisonniers, confesseur de suppliciés, hier, dépendant du Parlement, Jacobin aujourd'hui se notifiant tel à l'Assemblée nationale, pour l'audace et l'activité, celui-ci vaut trois avocats. Qu'une dame soit le centre de la petite société, il ne faut pas s'en étonner. Beaucoup de femmes entraient dans ces associations, des femmes fort sérieuses, avec toute la ferveur de leur cœur de femme, une ardeur aveugle, confuse d'affection et d'idées, l'esprit de prosélytisme, toutes les passions du Moyen-Âge au service de la foi nouvelle. Celle dont nous parlons ici avait été sérieusement éprouvée. C'était une dame juive qui se vit convertir toute sa famille et resta israélite. Ayant perdu son mari, puis son enfant par un accident affreux, elle semblait en place de tout, adopter la révolution. Riche et seule, elle a dû être facilement conduite par ses amis, je le suppose, à donner des gages au nouveau système, à y embarquer sa fortune par l'acquisition des biens nationaux. Pourquoi cette petite société fait-elle sa fédération à part? C'est que Rouen, au général, lui semble trop aristocrate. C'est que la grande fédération des 60 villes qui s'y réunissent, avec ses chefs, messieurs d'Estouteville, d'Herbouville, de Sévrac, etc., cette fédération mêlée de noblesse ne lui paraît pas assez pure. C'est qu'enfin, elle s'est faite le 6 juillet et non le 14, au jour sacré de la prise de la Bastille. Donc, au 14, ceux-ci, fièrement isolés chez eux, loin des profanes et des tièdes, fêtent la sainte journée. Ils ne veulent pas se confondre sous les rapports divers. Ils sont une élite, comme étaient la plupart de ces premiers Jacobins, une sorte d'aristocratie, ou d'argent ou de talent, d'énergie en concurrence naturelle avec l'aristocratie de naissance. Peu de peuples à cette époque dans les sociétés jacobines, point de pauvres. Dans les villes, cependant, où il y avait rivalité de deux clubs, où le club aristocratique, comme il arriva parfois, usurpait le titre d'ami de la Constitution, l'autre club du même nom ne manquait pas pour se fortifier, de se rendre plus facilement sur les admissions, de recevoir parmi ses membres des petites gens, boutiquiers et petits industriels. À Lyon, et sans doute dans quelques villes manufacturières, les ouvriers assistèrent de bonne heure aux discussions des clubs. Le vrai fond des clubs jacobins, c'était non pas les derniers, non pas les premiers, mais une classe distinguée, quoique secondaire, qui dès longtemps avait une guerre sourde contre ceux des premiers rangs. L'avocat, par exemple, contre le magistrat qui l'écrasait de sa morgue, le procureur, le chirurgien, voulant s'élever au niveau de l'avocat, du médecin, le prêtre contre l'évêque. Le chirurgien dans ce siècle avait, à force de mérite, rompu la barrière, monté presque à l'égalité. Le Châtelet entretenait une guerre contre le Parlement. Il vainquit en 89 et fut à un moment, qui l'eût cru, le grand tribunal national. Le célèbre fondateur des Jacobins de Paris, Adrien Duport, était un homme du Châtelet qui monta au Parlement mais qui, à la Révolution, reparut homme du Châtelet, brisa les parlementaires. Tout cela ensemble faisait des Jacobins une classe d'hommes âpres, défiantes, très ardentes et très contenues, plus positives et plus habiles qu'on ne l'aurait attendu de leur théorie peu précise. Quoique les vieilles jalousies, les ambitions nouvelles aient été un puissant aiguillon pour eux, quoique les intrigues de divers partis aient exploité ces sociétés, leur caractère en général, très fortement exprimé dans l'exemple que nous avons cité, est originairement celui d'associations naturelles, spontanées, formées par une véritable religion patriotique, une dévotion austère à la liberté, une pureté civique fort exigeante et tendant toujours à l'épuration. Quel était le symbole de ces petites églises? Cette foi ardente avait-elle un credo bien arrêté? Non, très vague encore, alliant sans s'en douter des principes contradictoires. Tous, presque tous, royalistes à cette époque et pourtant fort aigres pour le roi. Tous dominés par Rousseau, par le fameux principe de la philosophie du siècle, revenaient à la nature. Et néanmoins, avec cela, plusieurs se croyaient chrétiens, se rattachaient au moins de nom à la vieille croyance qui condamne la nature, qui la croit gâtée, déchue. Cette contradiction même, cette ignorance, cette foi en principe nouveau peu approfondie encore, a quelque chose de respectable. C'est la foi au Dieu inconnu. Et cette foi en eux n'est pas moins active, elle élève, fortifie les âmes. Comme le maître Rousseau, ils élèvent leur regard, dirigent leur émulation vers les nobles modèles antiques, vers les héros de Plutarque. S'ils n'entrent pas bien au fond du génie de l'Antiquité, ils en sentent du moins l'austérité morale, la force stoïque, y puisent l'inspiration des dévouements civils. Ils apprennent d'elle ce qu'elle a le mieux su, ce qu'eux-mêmes ils auront besoin dans leur périlleuse voie, de savoir, d'embrasser, la mort. Chose grave à dire aussi, ils puisent là une profonde modification à l'esprit de l'ancienne France. Cet esprit tenait à deux choses, presque impossibles à concilier avec la Révolution, avec la lutte violente qu'elle devait soutenir. D'une part, une certaine facilité de confiance et de croyance, une déférence trop grande pour les autres, une certaine fleur de politesse et de douceur. Charmante et fatale qualité, qui dans tant d'occasions ont donné prise sur nous. L'autre caractère du vieil esprit français tenait à ce qu'on appelle l'honneur, à certaines délicatesses de procédé, à certains préjugés aussi. À la facilité, par exemple, avec laquelle on admettait qu'un homme, pour vous avoir insulté, eut droit de vous égorger. Opinion qui, en théorie, part de l'estime du courage et qui, en pratique, livre souvent les braves aux habiles. Ces deux traits de l'ancienne France furent méprisés des Jacobins. Adversaires des prêtres, obligés de lutter contre une vaste association dont la confession et la délation sont les premiers moyens, les Jacobins employèrent des moyens analogues. Ils se déclarèrent hardiment amis de la délation. Ils la proclamèrent le premier des devoirs du citoyen. La surveillance mutuelle, la censure publique, même la délation cachée, voilà ce qu'ils enseignèrent, pratiquèrent, s'appuyant à ce sujet des plus illustres exemples de l'Antiquité. La cité antique, grecque et romaine, la petite cité monastique du Moyen-Âge qu'on appelle couvent, abbaye, ont pour principe le devoir de perfectionner, épurer toujours par la surveillance que tous les membres de l'association exercent les uns sur les autres. Et tel est aussi le principe que les Jacobins appliquent à la société tout entière. Né dans un grand danger national, au milieu d'une immense conspiration que niaient les conspirateurs, dont ils se sont vantés depuis, les Jacobins formèrent pour le salut de la France une légion, un peuple d'accusateurs publics. Mais à la grande différence de l'Inquisition du Moyen-Âge, par le confessionnal et mille moyens différents pénétrés jusqu'au fond des âmes, l'Inquisition révolutionnaire n'avait à sa disposition que des moyens extérieurs, des indices souvent incertains. De là, une défiance excessive, maladive, un esprit d'autant plus soupçonneux qu'il avait moins de certitude d'atteindre le fond. Tout alarmé, tout inquiété, tout paraissait suspect. Crainte trop nouvelle dans le péril où l'on voyait la France, la Révolution, la cause de la liberté et du genre humain. Cette heureuse Révolution, attendue 1000 ans, arrivait enfin hier et déjà près de périr. Arrachée d'un coup tout à l'heure à ceux qui l'avaient embrassée, mis au fond de leur cœur comme la meilleure part d'eux-mêmes. Ce n'était plus un bien extérieur qu'il s'agissait de leur ôter, mais leur vie. Nul n'eût survécu. Pour faire justice aux Jacobins, il faut se replacer au moment et dans la situation, comprendre les nécessités où ils se trouvèrent. Ils étaient en face d'une association immense, mi-partie d'idiots et mi-partie de coquins, ce qu'on appelle le monde des honnêtes gens. D'une part, deux délateurs. Le roi qui tout à l'heure dénonce son peuple à l'Europe, et le prêtre qui dénonce le peuple aux simples, aux femmes, à la Vendée. D'autre part, l'inepte alliance de Lafayette avec Bouillet au profit de celui-ci, et qui, avec bonne intention, irait mettre la révolution aux mains de ses ennemis. Qui peut dire dans le détail, ville par ville, dans les campagnes et les villages, ce que c'était que l'association du monde des honnêtes gens. Du monde prêtre, du monde femme, du monde noble et quasi-noble. Les femmes, quelle puissance! Avec de tels auxiliaires qu'est-il besoin de la presse? Leur parole est un véhicule bien autrement efficace. Vraie force, d'autant plus forte qu'elle n'a rien de cassant, qu'elle sait, elle est élastique, fléchie pour se mieux relever. Dites-leur un mot à l'oreille, il court, il va, il agit, le jour, la nuit, le matin, au lit, au foyer, au marché, et le soir, dans la causerie devant les portes, partout, sur l'homme, sur l'enfant, sur tous. Trois fois homme qui y résiste. Voilà un obstacle réel, terrible pour la Révolution. Et qu'est-ce au prix que l'étranger, toutes les armées de l'Europe? Ayons pitié de nos pères. Maintenant, qui voudrait entrer dans le détail irritant du monde noble et quasi-noble? De la pourriture antique des parlementaires, de leur ancienne police, l'obstacle le plus réel que Lafayette assure avoir trouvé dans Paris. De la clientèle basse, servile de marchands, petits rentiers, créanciers minimes qui se rattachaient aux clergés, aux nobles. Et ces nobles se retrouvaient, par la grâce de Lafayette et des lois révolutionnaires, chefs, officiers de leurs clients dans la garde nationale. Pour résister à tout cela, il fallait à la nouvelle association une organisation très forte. Elle se trouva dans la Société de Paris. L'originalité primitive de celle-ci fut moins dans les théories que dans les génies pratiques de ses fondateurs. Le principal fut Duport, et il resta pendant longtemps la tête même des Jacobins. Ce que Duport a pensé, disait-on, Barnave le dit et Lameth le fait. Mirabeau les appelait le Triumgeza. À la vigueur des coups qu'ils portèrent à la royauté, on les crut républicains. On leur attribua un dessein profond, un projet bien arrêté de changer tout de fond en comble. Eux-mêmes, ils étaient flattés de cette mauvaise renommée. Ils ne la méritaient pas. Ils n'étaient qu'inconséquents. Ils se trouvaient au jour critique qu'ils étaient partisans de la monarchie qu'ils avaient détruite. Duport était pourtant un penseur, une tête forte et plus complète que celle de ses collègues. Homme de spéculation, il avait en même temps beaucoup d'expérience révolutionnaire avant la Révolution même. Rival de Despremesnil au Parlement, il avait été l'un des principaux moteurs de la résistance contre Calonne et Brienne. Il devait connaître à fond l'action secrète de la police parlementaire, l'organisation des émeutes de la basoche et du peuple en faveur du Parlement. Pendant les élections de 89, il commença à réunir chez lui plusieurs hommes politiques, au lieu du grand chantier près du Temple. Mirabeau, Sieyès y vinrent et ne voulurent pas retourner. « Politique de caverne, dit Sieyès. Le grand métaphysicien ne voulait agir que par les idées. Duport, au secours des idées, voulait appeler l'intrigue souterraine, l'agitation populaire, l'émeute s'il le fallait. » Nouvelle réunion à Versailles. Celle-ci, dont le fond était la députation de Bretagne, s'appela le Club Breton. Là se préparaient, sous l'influence de Duport, Chapelier, etc., plusieurs des mesures hardies qui sauvèrent la révolution naissante. La minorité de la noblesse, mi-partie de grands seigneurs philanthropes et de courtisans mécontents, se mêla à ce club breton et y apporta un esprit fort divers, fort équivoque. Des courtisans révolutionnaires les plus intrigants, les plus audacieux, aidaient les frères Lameth, jeunes colonels d'une famille très favorisée de la cour, mais point satisfaite. Nobles d'Artois, ils avaient été élus en Franche-Comté, et ce fut un député de cette dernière province, très probablement le Rome, qui, en octobre 89, quand l'Assemblée fut à Paris, loua un local aux Jacobins pour réunir les députés. Les moines louèrent leur réfectoire pour 200 francs, et pour 200 francs le mobilier, table, chaise. Plus tard, le local ne suffisant pas, le club se fit prêter la bibliothèque et enfin l'église. Les tombeaux des anciens moines, l'école ensevelie de saint Thomas, les confrères de Jacques Clément se trouvèrent ainsi les muets témoins et les confidents des intrigues révolutionnaires. Outre les membres du club breton, beaucoup de députés qui n'étaient jamais venus à Paris, qui n'étaient pas fort rassurés après les scènes d'octobre et se croyaient comme perdus dans cet océan de peuple, s'étaient logés rue Saint-Honoré, prêts les uns les autres pour se retrouver au besoin. Ils étaient là, à la porte de l'Assemblée qui siégeait alors au manège, à l'endroit où se croisent les rues de Rivoli et de Castiglione. Il leur était commode de se réunir presque en face, au couvent des Jacobins. Il y eut 100 députés, le premier jour, puis 200, puis 400. Ils prirent le titre d'amis de la Constitution. Dans la réalité, ils la firent. Elle fut entièrement préparée par eux. Ces 400 plus liés entre eux, plus disciplinés, plus exacts d'ailleurs que les autres députés, furent maîtres de l'Assemblée. Ils y apportèrent toutes faites et les lois et les élections. Eux seuls nommaient les présidents, secrétaires, etc. Ils masquèrent quelque temps cette toute-puissance en prenant parfois le président dans d'autres rangs que les leurs. L'hiver de 89, toute la France va à Paris. Beaucoup d'hommes considérables voulaient entrer aux Jacobins. Ils admirent d'abord quelques écrivains distingués. Le premier fut Condorcet, puis deux, trois personnes connues qui devaient être présentées, recommandées par 6 membres. On n'entrait qu'avec des cartes qui étaient soigneusement examinées à la porte par 2 membres qu'on y plaçait. Le club des Jacobins ne pouvait se borner longtemps à être une officine de loi, un laboratoire pour les préparer. Il devint de bonne heure un grand comité de police révolutionnaire. La situation le voulait ainsi. Que servait de faire la Constitution si la Cour, par un coup habile, renversait cet échafaudage péniblement élevé? On a vu qu'au bruit du complot de Brest, qui, disait-on, allait être livré aux Anglais, Duport, le 27 juillet 1789, avait fait créer par l'Assemblée le comité des recherches. Le comité n'avait point d'agents que ceux mêmes du gouvernement qu'il avait à surveiller. Ces agents qui lui manquaient, ils se trouvèrent aux Jacobins. Lafayette, qui apprit à ses dépens à connaître leur organisation, dit que le centre en était une réunion de 10 hommes que même appelait le sabbat, qui prenait tous les jours l'ordre des lamettes. Chacun des 10 le transmettait à 10 autres de bataillons et sections différentes, de sorte que toutes les sections recevaient en même temps la même dénonciation contre les autorités, la même proposition d'émeute, etc. Lafayette avait pour lui le comité des recherches de la ville et beaucoup de gens dévoués dans la garde nationale. Ces deux policiers se croisaient entre elles et avec celles de la cour. Celles des Jacobins, agissant dans le sens du mouvement populaire, du flot qui montait, trouvaient autant de facilité que les autres rencontraient l'obstacle. Elle s'étendit partout, s'organisa dans chaque ville en face des municipalités, opposa à chaque corps civil et militaire une société de surveillance et de dénonciation. Nous avons parlé du club de 89 que Lafayette et Sieyès essayèrent d'abord d'opposer aux Jacobins. Ce club conciliateur qui croyait marier la monarchie et la révolution n'eût abouti, s'il eût réussi, qu'à détruire la révolution. Aujourd'hui que tant de choses à leur secret sont en pleine lumière, nous pouvons prononcer hardiment que, sans la plus forte, la plus énergique action, la révolution périssait. Si elle ne redevenait agressive, elle était perdue. L'imprudente association de Bouillet et de Lafayette lui avait porté le coup le plus grave. C'est par les Jacobins qu'elle reprit l'offensive. Le 2 septembre, on apprit à Paris la nouvelle de Nancy. Et le même jour, peu d'heures après, 40 000 hommes remplissaient les Tuileries, assiégeaient l'Assemblée, criant « Le renvoi des ministres! La tête des ministres! Les ministres à la lanterne !» L'effet de la nouvelle fut amorti. L'émotion dominée par l'émotion, la terreur par la terreur. La rapidité singulière avec laquelle fut arrangée cette émeute prouve à la fois l'état inflammable où le peuple se trouvait et la vigoureuse organisation de la société jacobine qui pouvait, au moment même où elle donnait le signal, réaliser l'action. Et Monsieur de Lafayette, avec ses 30 000 hommes de garde nationale, avec sa police militaire et municipale, avec les ressources de l'hôtel de ville, avec celle de la cour, un moment rapproché de lui pour frapper le coup de Nancy, Lafayette, dis-je, avec tant de ressources diverses, ne pouvait rien à cela. Le ministre contre lequel on lançait d'abord le peuple était celui qui, dans ce moment, agissait le moins. Necker, ministre des Finances. Tout ce qu'il faisait, c'était d'écrire. Il venait de faire paraître un mémoire contre les assignats. On envoyait quelques bandes crier contre lui, menacer. Lafayette, qui frappait si fort à Nancy, n'osa frapper à Paris et conseilla à Necker de se mettre en sûreté. Sur la proposition d'un député jacobin, l'Assemblée décréta qu'elle dirigerait elle-même le trésor public. Grave décision, l'un des coups les plus violents qu'on put porter à la royauté. Voilà donc les deux partis, jacobins, constitutionnels, qui tous les deux emploient la force, la violence, la terreur. Lafayette frappe par Bouillet, les jacobins par l'émeute. Terreur de Nancy, terreur de Paris. À combien de siècles sommes-nous de la Fédération de Juillet? Qui le croirait? À 2 mois. Cette belle lumière de paix, où donc est-elle déjà? L'excellent soleil de juillet s'en ténèbre tout à coup. Nous entrons dans un temps sombre de complots, de violences. Dès septembre, tout devient obscur. La presse, ardente, inquiète, marche à tâtons, on le sent. Elle cligne, elle cherche, elle ne voit pas, elle devine. L'acquisition des Jacobins qui commence donne de faibles et fausses lueurs qui tout à la fois éclairent, obscurcissent, comme ces lumières fumeuses dans la grande nef où ils s'assemblent, au couvent de la rue Saint-Honoré. Une seule chose était claire dans cette obscurité, c'était l'insolence des nobles. Ils avaient pris partout l'attitude du défi, de la provocation. Partout, ils insultaient les patriotes, les gens les plus paisibles, la garde nationale. Parfois, le peuple s'en mêlait, et il en résultait des scènes très sanglantes. Pour ne citer qu'un exemple, à Cahors, deux frères gentilshommes trouvèrent plaisant d'insulter la garde nationale qui avait chanté « Ça ira ». On voulut les arrêter. Ils blessèrent, tuèrent ce qui se présenta. Puis se jetèrent dans leur maison et de là, fortifiés, ayant plusieurs fusils chargés, tirèrent sur la foule et tuèrent un grand nombre d'hommes. On mit le feu à la maison pour terminer ce carnage. Dans l'assemblée même, au sanctuaire des lois, on n'entendait qu'insultes et défis des gentilshommes. Monsieur d'Ambly menaçait Mirabeau de la canne. Un autre alla jusqu'à dire « Que ne tombons-nous sur ces gueux l'épée à la main ?» Aquidam, envoyé par eux, suivit deux jours entiers Charles de Lamette pour le forcer de se battre. Lamette, très brave et très adroit, refusa obstinément de l'honorer d'un coup d'épée. Le troisième jour, comme rien ne pouvait lasser sa patience, tout le côté droit en masse l'accusa de lâcheté. Le jeune duc de Castries insulta. Ils sortirent, Lamette fut blessé. De là, grande fureur du peuple. On répandit que l'épée de Castries était empoisonnée, que Lamette allait en mourir. Les Jacobins crurent l'occasion bonne pour effrayer les duellistes. Leurs agents poussèrent la foule à l'hôtel Castries. Il n'y eut ni meurtre ni vol, mais tous les meubles furent brisés, jetés dans la rue. Tout cela tranquillement, méthodiquement. Les briseurs mirent une sentinelle au portrait du roi qui seul fut respecté. Lafayette vint, regarda, ne put rien faire. La plupart des gardes nationaux étaient indignés eux-mêmes de la blessure de Lamette et trouvaient qu'après tout, les briseurs n'avaient pas tort. 13 novembre 1790. Dès ce jour, cette terreur des duellistes qui peu à peu rendait l'ascendant à la noblesse fit place à une autre terreur, celle des vengeances du peuple. La supériorité individuelle que les nobles avaient par l'escrime disparut devant la foule. Ils avaient essayé de faire des questions d'honneur de toutes questions de parti. Ils abusaient de l'adresse. On leur opposa le nombre. Les révolutionnaires les plus braves, ceux qui l'ont prouvé depuis sur tous les champs de bataille, refusèrent de donner aux spadassins l'avantage facile des combats individuels.